actuel aujourd'hui, en ce 13 octobre, il est bien normal de parler de Fatima. Hein? Fatima, c'est le 13 octobre, c'est la grande fête. C'est le jour où il s'est déroulé des choses tellement extraordinaires à cet endroit, au Portugal, en 1917. Et nous allons parler aujourd'hui de deux des trois voyants. D'abord, il y a une voyante plus âgée, qui avait 10 ans à l'époque, et qui s'appelle aujourd'hui Sœur Lucie, qui est une carmélite de 92 ans. Elle a écrit dans les années 40 des récits où elle nous parle de ses deux compagnons, François et Jacinthe Marteau, le frère et la sœur, deux enfants donc qui ont vu avec elle la très sainte Vierge à Fatima. C'est une façon de célébrer aujourd'hui, alors que nos enfants sont parfois en perdition, n'est-ce pas? Nous allons voir aujourd'hui ce que des enfants peuvent comprendre quand ils reçoivent un enseignement religieux vivant. Ils peuvent devenir des saints, vous allez voir, ils seront, ces deux-là, qui sont morts à 10 ans environ, ils seront les plus jeunes béatifiés, semble-t-il, en l'an 2000, c'est ce que l'on a annoncé, du moins dans l'Osservatore Romano, je pense du 28 juin dernier. C'est ce qu'on m'a certifié. Les mémoires de Sœur Lucie sont donc de longues lettres qu'elle a adressées à Mgr José da Silva, premier évêque du diocèse restauré de Leira, dont dépend Fatima. Il ne s'agit pas pour elle de raconter point par point Fatima, mais de mettre par écrit ses souvenirs. Et ces quatre mémoires, je vais puiser dans le deuxième et le troisième, ces quatre mémoires ne relate pas la suite des événements dans l'ordre strictement chronologique, parce que Lucie elle-même constate avec la spontanéité qui fait le charme d'ailleurs de ses récits, qu'elle écrit comme elle se souvient. Ce qui revient, dit-elle, je vais vous le dire tout à l'heure, à marcher en zigzag comme le crabe. Mais ce n'est pas bien gênant. Dès lors qu'on sait, qui ne le serait d'ailleurs un petit peu moins, que ces trois petits-enfants ont prétendu, envers et contre tous, avoir vu la Sainte Vierge le 13 de chaque mois, du 13 mai au 13 octobre 1917. Ce qui frappe tout d'abord, c'est leur extrême jeunesse. Hein, Lucie est née le 22 mars 1907, ce qui lui donne 92 ans. François, lui, est né le 11 juin 1908 et Jacinthe le 10 mars 1910. Non, c'est donc Lucie qui était la plus jeune. Hein. En 1917, ils ont donc seulement 10, 9 et 7 ans. Et prenez en exemple n'importe quelle petite fille de cet âge et demandez-vous s'il est croyable qu'une petite fille puisse forger et soutienne un tel mensonge à longueur d'année dans les circonstances les plus tragiques que je vous ai déjà racontées. Car même devant des pressions inouïes, qui vont jusqu'à l'emprisonnement, même des menaces de mort, hein, on les a menacées de mort, dans des conditions qui rendaient cette menace crédible pour eux, ces petits-enfants-là, étant donné leur naïveté, hein, ben les trois enfants ne se sont jamais démentis, jamais embrouillés même, jamais embrouillés, et puis jamais contredits, mutuellement non plus. Non, pas même sur leur lit de mort, puisque François est mort le 4 avril 1919, donc il était très jeune, il avait 10 ans, et Jacinthe, le 20 février 1920, elle avait presque 10 ans. Pourtant, il s'agit d'enfants qui jusqu'aux apparitions s'étaient montrés semblables à tous les autres. Ils avaient leurs petits défauts. Jacinthe était susceptible, elle était un petit peu boudeuse des fois. Elle était trop intéressée dans ses jeux. François, lui, il était d'un naturel accommodant jusqu'à l'indifférence. Il était très détaché, quoi. Et tous trois n'étaient au début pas plus pieux que les autres. Ils aimaient le jeu, la danse, les danses portugaises, hein, avec des chansons populaires, un peu comme on en a ici au Québec, dans la tradition des chansons de folklore. Et ils expédiaient parfois un peu leur chapelet pour pouvoir aller danser, chanter, danser dans le sens de danser les danses d'enfants, les danses folklore. Mais s'ils se distinguent des petits gamins de leur âge, là, c'est plutôt qu'ils ont une grande aversion pour le péché, déjà. Ils sont... vraiment, ils veulent pas commettre de péché. Ah, ils veulent pas mentir, surtout pas de mensonge. Puis ils avaient une grande délicatesse de conscience. Ça nous fait penser, n'est-ce pas, à Bernadette Soubirous, qui était pareille, elle, qui a eu les apparitions de Lourdes. François, dit Sœur Lucie, dans ses récits, aimait beaucoup les oiseaux, les petits oiseaux. Il ne pouvait supporter qu'on vole leur nid. Alors, il émiettait toujours une partie du pain qu'il emportait pour son repas au-dessus des pierres, là, pour leur donner à manger, puis en s'éloignant, il les appelait. Et oui, il appelait les petits oiseaux, un peu comme Saint-François d'Assise, hein, comme s'ils avaient pu comprendre, puis ils ne voulaient que personne n'approche pour ne pas les effrayer. Et il disait à tout le monde, « Pauvre petit. » Puis là, il se retournait vers eux, puis il leur disait, « Vous avez faim? Venez. » Venez manger. Et les petits oiseaux, avec leur regard vif, hein, comme on les connaît, ne se faisaient pas prier, puis ils venaient en grande bande. Et son plaisir était alors de les voir voler au sommet des arbres, le gésier bien garni de pain, chanter et pipier à tue-tête, et tandis qu'il les imitait avec adresse, d'ailleurs, il imitait les chants des oiseaux, puis il faisait chorus avec eux, chantait avec eux. Un jour, une sœur Lucie dit qu'ils ont rencontré un enfant qui vivait dans... qui avait dans sa main un petit oiseau, qu'il avait attrapé. Alors, plein de compassion, le petit François Marteau lui promit 2 pièces de monnaie, s'il le laissait s'envoler. Mais le garçon accepte la proposition, tout en voulant d'abord toucher l'argent, avoir l'argent en main. Alors, François revient alors chez lui chercher 2 pièces de monnaie, et puis il libère le petit prisonnier. Et quand il voit le petit oiseau s'envoler, il bat des mains de contentement, puis il dit, « Prends garde, mon enfant. Ne te laisse plus attraper. Ne te laisse plus attraper. » Il y avait par là une bonne vieille, paraît-il, qu'ils appelaient tous les trois Tante Maria Carreira. Les enfants lui confiaient parfois un troupeau de chèvres et de brebis pour les faire paître, mais celle-ci... assez peu apprivoisé, ces petits brebis se dispersaient souvent d'un côté puis de l'autre. C'était pas facile pour des enfants. Quand nous la rencontrions, dit Sœur Lucie, ainsi en peine, François était le premier à venir à son secours. Il l'aidait à mener le troupeau jusqu'au pâturage. Il ramenait les bêtes qui s'étaient dispersées pour aider la pauvre vieille. Et la pauvre vieille se répandait en 1000 remerciements et l'appelait son petit ange gardien. Il en passait des malades. Il en ressentait beaucoup de peine, puis il disait, « Je ne peux pas voir des gens comme ça, cela me fait trop de peine. » Quand on nous appelait, dit Sœur Lucie, pour parler à des personnes qui nous cherchaient, puisqu'ils avaient vu la Vierge, hein, et demandaient si c'était des malades, et il disait, « Oh, si ce sont des malades, je n'y vais pas, je ne peux pas les voir, ils me font trop de peine, dites-leur que je prie pour eux. » Un jour, on a voulu nous conduire, dit Sœur Lucie, à Montello, chez un homme appelé Joachim Chapelletta. François ne voulut pas y aller. « Je n'y vais pas. Je ne peux pas voir ces gens qui veulent parler sans pouvoir le faire. » Cet homme avait sa mère qui était muette. « Quand je revins le soir, dit Sœur Lucie, avec Jacinthe, je demandai à ma tante où il était.
« Est-ce que je sais? »
Elle, c'est ce que la mère a répondu.
Je suis fatigué de le chercher cet après-midi. Il y avait des dames qui voulaient le voir. Vous n'étiez pas là. Il a disparu. Il n'a plus reparu. Cherchez-le vous-même. »
Alors nous sommes assis un moment sur un banc de la cuisine avec l'intention d'aller le chercher. Mais dès que ma tante fut sortie de la maison, il nous a parlé par un petit trou qui se trouvait dans le plancher du grenier. C'était là qu'il était monté quand il avait entendu venir du monde. Et de là, il avait vu tout ce qui s'était passé. Il nous dit ensuite, « Oh, il y avait tant de monde. Dieu me garde de me trouver seul ici avec tant de gens. » Puis d'ailleurs, qu'est-ce que je pouvais leur dire? Il est humble, on voit. Il n'est pas vantard. Ma tante, dit Sœur Lucie, avait vendu son troupeau avant que ma mère ne vende le sien. À partir de ce moment,
Le matin, avant de partir, j'avertissais Jacinthe et François au lieu de, du lieu dans, l'endroit où on allait les mener, là, le lieu de pâture, où je devais me rendre. Et eux, dès qu'ils pouvaient s'échapper, ben, ils venaient m'y trouver. Puis un jour, en arrivant, je les ai trouvés déjà là à m'attendre. Je disais, comment êtes-vous venu si tôt? Et François a répondu, je suis venu parce que je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Auparavant, je ne me souciais pas beaucoup de toi, parla sa cousine. Je venais à cause de ma sœur Jacinthe. Mais maintenant, le matin, je ne peux plus dormir, tellement je suis pressé de venir auprès de toi. Parce qu'il forme un groupe de trois voyants, hein, ça lui importe maintenant. Lorsque furent passés les jours des apparitions des 13 chaque mois, là, c'est-à-dire après le 13 octobre 1917, la veille des autres 13, il nous disait, « Écoutez, demain, de bonne heure, je me sauverai par le jardin vers le lapin de Cabesso. Vous, dès que vous le pourrez, venez m'y rejoindre. » Et sœur Lucie ajoute, « Ah, mon Dieu, j'étais déjà en train d'écrire au sujet de sa maladie et de sa mort toute proche, et voilà que je reviens à l'époque joyeuse de notre vie au milieu de la campagne, parmi le doux gazouillement des oiseaux, et j'en demande pardon. J'écris ici mes souvenirs à la manière du crabe, qui va en arrière et en avant, sans se préoccuper du but du voyage. Je reviens donc, Monseigneur, à la maladie de François. Mais auparavant, voici encore un autre trait de son court séjour à l'école. Je sortais un jour de la maison, et je rencontrais ma sœur Thérèse et elle qui était mariée depuis peu. Elle venait à la demande d'une femme d'un hameau voisin, dont le fils avait été arrêté parce qu'on l'avait accusé de je ne sais quel crime pour lequel il risquait d'être condamné à la déportation, ou du moins à un grand nombre d'années de prison, si son innocence n'était pas démontrée. Elle me demandait donc avec insistance, au nom de cette pauvre femme, à qui elle voulait faire plaisir, d'obtenir cette grâce de Notre-Dame, de Fatima, quoi. Ayant reçu cette commission, je me rendis à l'école, et en chemin, je racontai à mes cousins ce qui était arrivé. Et en arrivant à Fatima, François me dit, « Écoute, pendant que tu vas à l'école, moi je vais rester avec Jésus caché, dans le tabernacle, et là, je lui demanderai cela. » En sortant de l'école, j'allais l'appeler et lui demander, « As-tu demandé cette grâce à notre Seigneur? »« Oui, oui, je l'ai demandé, et tu peux dire à ta sœur Thérèse que dans quelques jours, il reviendra chez lui. » Effectivement, quelques jours après, le pauvre garçon qui risquait d'être condamné était revenu chez lui, et le 13, avec toute sa famille, il venait remercier Notre-Dame de la grâce obtenue. Et un autre jour, en sortant de la maison, j'ai remarqué que François marchait très lentement et je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu ne peux pas marcher. » Il dit, « J'ai très mal à la tête, il me semble que je vais tomber. » Elle lui dit, « Alors, ne viens pas, reste à la maison. Non, non, je veux plutôt aller à l'église avec Jésus caché pendant que tu iras à l'école. » Et à un moment où François, déjà malade, avait encore la force de faire une promenade, j'allais avec lui à la Lapa du Cabesso et au Valenhaus, et au retour, en arrivant à la maison, c'était plein de monde, et une pauvre femme auprès d'une table faisait semblant de bénir d'innombrables objets de piété, des chapelets, des médailles, des crucifix, toutes sortes de choses. Et Jacinthe et moi, nous avons été entourés de nombreuses personnes qui voulaient nous interroger, et quant à François, il a été appelé par cette bénisseuse, une fausse bénisseuse, évidemment, parce que ce sont les prêtres qui doivent bénir. Elle voulait qu'il l'aide à bénir. Il dit, « Je ne peux pas bénir. Et vous non plus, ce sont seulement les prêtres qui bénissent. » Et la réponse du petit François se répand immédiatement parmi les gens rassemblés. Et comme si elle avait été donnée par un porte-voix, un gars solide, pourtant était tout jeune. Et la pauvre femme dut se retirer sur le champ, au milieu des insultes de ceux qui lui réclamaient les objets qu'il venait de lui remettre. Il avait du caractère. C'était un bon petit bonhomme. Sœur Lucie raconte, un jour, je lui tenais compagnie auprès de son lit avec Jacinthe, qui s'était un peu levé. Et ils ont décidé de se cacher quand ils ont vu beaucoup de monde. Il y avait là aussi une femme qui demandait la guérison d'un malade et la conversion d'un pécheur. Il dit, « Je vais prier pour cette femme. Et vous, priez pour les autres qui sont très nombreux. » Cette femme est revenue, et peu après la mort de François, pour me demander où était sa tombe. Elle voulait y aller pour le remercier des deux grâces qu'elle avait demandées et qu'elle avait obtenues. Sœur Lucie ajoute, nous allions un jour à la Cova d'Airia, c'est là où ont eu lieu les apparitions. Lorsque, peu après la sortie d'Ayustrel, nous avons été surpris par un groupe de personnes à un tournant de la route, et pour mieux nous voir et nous entendre, ils nous ont placés, Jacinthe et moi, au-dessus d'un petit mur, et François a refusé de se laisser placer là, comme s'il avait peur de tomber. Ensuite, il s'est éloigné, peu à peu, puis il est allé s'adosser à un mur qui se trouvait en face. Une pauvre femme et un jeune homme, voyant qu'ils n'arrivaient pas, eux, à nous parler en particulier comme il le désirait, sont allés s'agenouiller devant lui pour lui demander de leur obtenir de Notre-Dame la guérison du père et la faveur de ne pas aller à la guerre pour le fils. François Marteau s'agenouille immédiatement, lui aussi. Il retire son bonnet, puis il leur demande s'ils veulent réciter le chapelet avec lui. Alors ils acceptent et se mettent à prier. Bientôt, tous ces gens laissent là les questions curieuses, se mettent aussi à genoux pour prier, puis ensuite ils nous ont accompagnés à la Cova d'Airia, et en chemin ils récitaient avec nous un autre chapelet, puis au lieu des apparitions encore un troisième, puis ils ont pris congé de nous satisfaits, ils étaient heureux. La pauvre femme a promis de revenir mercier Notre-Dame si elle obtenait les grâces qu'elle avait demandées. Elle est revenue, en effet, plusieurs fois, accompagnée non seulement de son fils, mais de son mari, déjà rétabli. Elle avait été exaucée grâce à François. Pendant sa maladie, François s'est montré toujours joyeux et satisfait. Quelquefois, je lui demandais, « Tu souffres beaucoup, mon François? » « Assez, mais qu'importe, je souffre pour consoler notre Seigneur, et ensuite, dans peu de temps, j'irai au sien. » Là, n'oublie pas de demander à Notre-Dame qu'elle m'amène aussi là-haut bien vite, dit sœur Lucie. Ou la petite Lucie. Cela, je ne le demanderai pas. Tu sais bien qu'elle ne te veut pas là maintenant. Parce qu'il savait qu'il allait mourir ainsi que sa sœur. La Vierge leur avait dit. Peu de temps avant de mourir, François me dit, « Écoute, je me sens très mal. Il m'en faut peu maintenant pour aller au ciel. » Elle lui dit alors, « Attention, n'oublie pas de prier là-haut pour les pécheurs, pour le Saint-Père, pour moi et pour Jacinthe. Oui, 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 je prierai. Mais écoute, ces choses-là, demande-les plutôt à Jacinthe, car j'ai peur d'oublier quand je verrai notre Seigneur. » C'est drôle. « Et aussi, je voudrais plutôt le consoler. » Le consoler. Un jour, très tôt le matin, sa sœur Thérèse, celle qui est mariée, est venue m'appeler. « Viens vite, François est très mal. » Et il dit qu'il voudrait te dire quelque chose. Je me suis habillé rapidement, et j'y suis allé. Il a demandé à sa mère et à ses frères et sœurs de sortir de la chambre parce qu'il voulait me dire un secret. Ils sont sortis, et il me dit alors, « C'est que je vais me confesser pour communier, mourir ensuite. Je voudrais que tu me dises, si tu m'as vu faire quelque péché et que tu ailles demander à Jacinthe si elle aussi m'a vu en faire. » Alors, Lucie lui dit, « Tu as désobéi quelquefois à ta mère, quand elle te disait de rester à la maison et que tu t'échappais pour venir auprès de moi ou pour aller te cacher. Oh, il dit, c'est vrai, j'ai ce péché-là. Maintenant, va demander à Jacinthe si elle se rappelle quelque autre péché. » Alors j'y suis allé et Jacinthe, après avoir un peu réfléchi, me répond, « Écoute, dis-lui qu'avant les apparitions de Notre-Dame, il a volé un tostao, c'est-à-dire 10 pièces de monnaie, à peu près 10 sous, disons. » À son père. Il a volé ça à son père pour acheter l'harmonica de José Marteau de Casavella. Et que quand les garçons d'Aliustrel jetaient des pierres à ceux de Boleiros, il en a jeté aussi quelques-unes de ces pierres. Alors, je lui fis la commission de la part de sa sœur. Puis François répondit, « Ces péchés-là, je les ai déjà confessés. Oh, mais je les confesserai de nouveau. » C'est d'ailleurs peut-être à cause de ces péchés que j'ai commis que notre Seigneur est si triste. Mais même si je ne meurs pas, je ne les ferai plus jamais. Je m'en repens maintenant. Et joignant les mains, il dit la prière, « Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, et attirez au ciel toutes les âmes, principalement celles qui en ont le plus besoin. Écoute, prie-toi aussi, notre Seigneur, pour qu'il me pardonne mes péchés.
Elle lui dit, je prierai, sois tranquille, si notre Seigneur ne te les avait pas déjà pardonnés, Notre-Dame m'aurait dit l'autre jour à Jacinthe qu'elle allait venir te chercher dans très peu de temps pour aller au ciel.
Maintenant je vais à la messe, et là je prierai pour toi, Jésus caché.
Écoute, demande-lui que Monsieur le curé vienne me donner la Sainte Communion.
Et elle lui dit, bien sûr. Quand je suis revenu de l'église, Jacinthe était déjà levée et était assise sur son lit. Et dès qu'il m'a aperçu, il m'a demandé, « As-tu demandé à Jésus caché que Monsieur curé vienne me donner la Sainte Communion? » Et je l'ai demandé, oui.
« Ensuite, au ciel, je prierai pour toi. »«
Oh, tu prieras pour moi? » »«
Oh, mais l'autre jour, tu m'as dit que tu ne prierais pas. »«
Ben, c'était pour que tu ailles bientôt au ciel. »
Que tu m'avais demandé, « Mais si tu le veux, je prierai aussi pour cela. »
Et ensuite, Notre-Dame fera ce qu'elle voudra.
Alors, elle lui dit, « Bien sûr que je le veux, demande-le donc. »
« Eh bien, oui, sois tranquille, je le demanderai. »
Alors, je les ai laissés et je me suis rendu à mes occupations journalières de travail et d'école. Et quand je suis revenu le soir, François était rayonnant de joie. Il s'était confessé et Monsieur le curé avait promis de lui apporter le lendemain la Sainte Communion. Et après avoir communié le jour suivant, il disait à sa petite sœur, « Aujourd'hui, je suis le plus heureux que toi parce que j'ai dans ma poitrine Jésus caché, puis je vais au ciel. » Mais là, je vais demander beaucoup à notre Seigneur et à Notre-Dame qui nous amène aussi là-haut, bien vite.
Je passais presque toute la journée avec Jacinthe auprès de son lit.
Et comme il ne peut plus prier, bien, il nous demande de réciter le chapelet pour lui. Ensuite, il me dit, « Certainement, au ciel, j'aurai beaucoup de regrets de ne plus te voir. Qui me donnera que Notre-Dame t'amène aussi là-haut bientôt? Tu n'auras pas de regrets, quelle idée! » Auprès de notre Seigneur et de Notre-Dame, qui sont si bons, voyons.
C'est vrai, peut-être que je n'y penserai plus.
Et maintenant, j'ajoute à part moi, dit Lucie, peut-être qu'il n'y pense plus.
Patience.
Il faisait déjà nuit lorsque je fais mes adieux.
Adieu, François.
Si tu vas au ciel cette nuit, ne m'oublie pas là-haut.
Entends-tu?
Non, 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 je ne t'oublierai pas, sois tranquille. Et me prenant la main droite, il me la serra un bon moment avec force. Et il me regarda avec des larmes dans les yeux.
« Veux-tu encore quelque chose ?» je lui dis.
« Non, » répond-il d'une voix faible. Comme la scène commençait à devenir trop émouvante, ma tante m'a demandé de sortir de la chambre.
« Alors adieu, François.
Au ciel.
Adieu.
Oui, oui, au ciel. » Le ciel s'approche pour lui. Et il s'y envole le jour suivant, le vendredi 4 avril 1919, dans les bras de notre Mère du Ciel. Et sœur Lucie ajoute, « Mon chagrin ne peut se décrire. C'est une triste épine qui me perce encore le cœur après tant d'années. C'est le souvenir du passé qui résonne toujours dans l'éternité. » Un jour, raconte sœur Lucie, le père Cruz, ou ça veut dire croix, n'est-ce pas? Comme le père Lacroix, Benoît Lacroix. Le père Cruz de Lisbonne vint aussi nous interroger. Après l'interrogatoire, il nous demande de lui montrer le lieu où Notre-Dame nous était apparue. En chemin, nous marchions de chaque côté de lui. Il était monté sur un âne, si petit que ses pieds touchaient presque le sol. Il nous enseigne alors toute une litanie de raisons jaculatoires, et Jacinthe en retient deux, qu'elle ne cesse de répéter. « Mais voici, ô mon Jésus, je vous aime. Doux cœur de Marie, soyez mon salut. » Un jour, au cours de sa maladie, elle me dit, « J'aime tant dire à Jésus que je l'aime. Quand je lui dis souvent, il me semble que j'ai du feu dans ma poitrine. » Mais un feu qui ne brûle pas. Et une autre fois, elle me disait, « J'aime tant notre Seigneur et Notre-Dame que je ne me fatigue jamais de leur dire que je les aime. » Il y avait dans notre hameau une femme qui nous insultait chaque fois qu'elle nous rencontrait. Un jour, nous l'avons rencontrée
Lorsqu'elle sortait d'un cabaret, et comme elle ne possédait plus, elle avait trop bu, la pauvre, cette fois-là, ne s'est pas contentée de nous insulter. Et quand elle a eu terminé son travail, Jacinthe me dit, « Oh, il faut bien prier Notre-Dame et lui offrir des sacrifices pour la conversion de cette femme. Elle dit tant de péchés que si elle ne se confesse pas, elle ira en enfer. » Pour vous dire qu'ils avaient eu une vision de l'enfer assez étonnante. Quelques jours après, nous passions en courant devant la porte de la maison de cette femme et soudain, Jacinthe s'arrête au milieu de sa course et en se retournant, elle dit, « Tiens, tiens, mais c'est demain que nous allons voir Notre-Dame. » »« Oui, oui, c'est demain. » »« Oh, alors, nous n'allons plus jouer. Nous ferons ce sacrifice pour la conversion des pécheurs. » Et sans penser que quelqu'un pouvait la voir, elle leva les mains et les yeux au ciel. Elle fit l'offrande. La bonne femme, méchante, nous guettait par une lucarne de sa maison. Elle dit ensuite à ma mère que ce geste de Jacinthe, qui s'offrait, l'avait tant impressionnée qu'elle n'avait pas besoin d'autres preuves pour croire à la réalité des apparitions et des faits. À partir de ce moment, non seulement elle ne nous a plus insultés, mais elle nous a demandé sans cesse de prier pour elle Notre-Dame afin d'obtenir le pardon de ses péchés. Un jour, une pauvre femme vient à notre rencontre et en pleurant, elle s'agenouille devant Jacinthe. Elle lui demande d'obtenir de Notre-Dame la guérison d'une terrible maladie. Jacinthe, la voyant à genoux devant elle, est peinée. Elle prend ses mains tremblantes pour la relever. Voyant que la femme n'en était pas capable, eh bien Jacinthe s'agenouille aussi et récite avec elle trois Ave Maria. Ensuite, elle lui demande de se relever en lui disant que Notre-Dame la guérira. Elle ne manque pas de prier tous les jours pour elle, jusqu'à ce que, passé quelque temps, cette femme est revenue remercier Notre-Dame de sa guérison. Une autre fois, c'était un soldat qui pleurait comme un enfant. Il avait reçu l'ordre de partir à la guerre. Il laissait sa femme malade au lit avec trois petits-enfants. Il demande ou la guérison de sa femme ou la révocation de l'ordre de départ. Alors Jacinthe l'invite à dire avec elle un chapelet. Ensuite, elle lui dit, « Ne pleurez pas, Notre-Dame est si bonne. Certainement, elle vous accordera la grâce que vous demandez. » Et elle n'oublie jamais son soldat, jamais. À la fin du chapelet, elle disait toujours un Ave Maria pour le soldat. Au bout de plusieurs mois, le soldat réapparaît avec sa femme et ses trois petits-enfants pour remercier Notre-Dame des deux grâces qu'il a reçues à cause d'un accès de fièvre qu'il a eu la veille de partir. Il a été exempté du service militaire. Et sa femme, dit-il, a été guérie par un miracle de Notre-Dame. On nous dit un jour, ajoute sœur Lucie, que viendrait nous interroger un prêtre qui était un saint et qui devinait ce qui se passait dans l'intime de chacun, comme le curé d'Ars, comme le vénérable Thomas de la Vierge. Aussi, découvrirait-il, si oui ou non, nous disions la vérité. Jacinthe s'écrie alors pleine de joie, « Quand donc viendra ce monsieur l'abbé qui devine, ah, s'il devine, il saura bien que nous disons la vérité. » Nous jouions un jour sur les dalles du puits dont nous avons déjà parlé, et la mère de Jacinthe avait une vigne toute proche. Elle cueille quelques grappes et vient nous les apporter pour nous les faire manger. Mais Jacinthe n'oublie jamais ses pécheurs. Non, non, nous ne mangerons pas ces raisins et nous offrirons ce sacrifice pour les pécheurs. Et elle court les porter à des enfants qui jouent dans la rue. Et en revenant, elle est rayonnante de joie. Elle a rencontré nos pauvres petits habituels, là, et leur a donné des raisins. Une autre fois, ma tante nous appelle pour nous faire manger des figues qu'elle a apportées chez elle et qui, en vérité, auraient ouvert l'appétit de n'importe qui. Jacinthe s'assit avec nous, toute contente, auprès du panier, et prend une figue pour la manger. Mais soudain, elle se souvient et dit... C'est vrai, nous n'avons fait encore aujourd'hui aucun sacrifice pour les pécheurs. Il faut faire celui-là. Les sacrifices, c'est pas n'importe quoi. Une qui en a bien parlé des sacrifices est Madeleine Delbrel. Elle dit « Une vie de type religieux est celle d'un homme qui affirme en acte sa préférence de Dieu sur les biens les plus vitaux. » Madeleine Delbrel, je répète, qui dit ça. Puis elle ajoute « L'amputation ou la renonciation qu'il consent librement sur certains de ses biens, comme des figues pour des enfants ou du raisin, constitue le sacrifice. Mais plus il est religieux, plus l'homme cesse de juxtaposer des actes sacrificiels pour devenir un sacrifié lui-même. Ce qui, au premier abord, apparaît dans les actes chrétiens comme négatif, cet homme le recherche et le choisit par intention religieuse, comme l'adoration, qui, visible ou non, reste elle-même, prenant tout l'homme pour qu'il soit à la discrétion de Dieu. » C'est exactement ce que la grâce de Dieu opère en ses trois enfants et en Jacinthe. Madeleine Delbrel avait bien raison, l'une des catholiques et des femmes les plus brillantes du XXe siècle. Elle remet donc la figue dans le panier, elle prononce l'offrande, et elle laisse là les figues pour convertir les pécheurs, et Jacinthe répète fréquemment ses sacrifices. Mais sœur Lucie ajoute, « Je ne vais pas en dire plus long, car je n'en finirai pas. » Ainsi se passait la vie de Jacinthe quand notre Seigneur envoya la pneumonie, ils appellent ça comme ça, c'est une épidémie, dites la grippe espagnole, si vous voulez, hein, qui se caractérisait par des pneumonies. Hein. Qui n'a pas perdu des oncles, des tantes, ou des grandes tantes, ou des grands oncles dans cette épidémie de grippe espagnole? Hein. Alors, ça l'a mis au lit, ainsi que son frère, d'ailleurs, François. La veille du jour où elle tomba malade, elle me disait, j'ai si mal à la tête et j'ai si soif. Mais je ne veux pas boire, afin de souffrir pour les pécheurs. Tout le temps libre que me laissait l'école, ou les petites choses qu'on me demandait de faire, je le passais auprès de mes petits compagnons. Et un jour que j'allais à l'école, Jacinthe me dit, tiens, tiens, dis à Jésus caché que je l'aime beaucoup, que j'ai un grand amour pour lui. Et d'autres fois, elle disait, dis à Jésus bien des choses pour moi. Et quand j'allais la voir, d'abord dans sa chambre, elle disait, « Va voir maintenant, François. Je vais faire le sacrifice de rester ici toute seule. » Un jour, sa mère lui apporte une tasse de lait et lui dit de la prendre. Et ça, c'est très sympathique. Elle dit, « Je n'en veux pas, maman. » Elle veut faire un sacrifice. Hein? Elle écarte de la main la tasse. Lucie raconte, « Ma tante insista un peu et se retira ensuite en disant, « Je ne sais comment lui faire prendre quelque chose avec cette répugnance qu'elle a pour tout. » Dès que nous avons été seuls, j'ai demandé à Jacinthe, « Comment peux-tu désobéir ainsi à ta mère? Tu ne veux pas offrir ce sacrifice à notre Seigneur? » Elle n'est pas bête, cette Lucie. Hein? En attendant cela, Jacinthe laisse tomber quelques larmes que j'eus le bonheur d'essuyer. Et elle me dit, « Je n'y pensais plus. » Alors Jacinthe appelle sa mère, lui demande pardon et lui dit qu'elle prendra tout ce qu'elle voudra lui donner. Sa mère lui apporte la tasse de lait. Elle la prend sans montrer la moindre répugnance. Elle me dit ensuite, « Si tu savais combien cela m'a coûté de la prendre. » Ce sont des sacrifices d'enfants. Vous direz que tout ça est un peu niais. Ça n'est pas niais. C'est l'âme pure des enfants. C'est l'âme pure de deux petits saints. François et sa sœur Jacinthe, Marteau, M-A-R-T-O. Dans une autre occasion, Jacinthe me dit, raconte Lucie, « Cela me coûte de plus en plus de prendre du lait et de la soupe. Mais je ne dis rien. Je prends tout par amour pour notre Seigneur et pour le cœur immaculé de Marie, notre petite maman du ciel. Je lui ai demandé un jour, « Est-ce que tu vas mieux? »« Tu sais bien que je ne vais pas mieux, » répondit-elle. Et elle ajoute, « J'ai tellement mal à la poitrine, mais je ne dis rien. Je souffre pour la conversion des pécheurs. » Un jour que j'étais près d'elle, elle me demande, « As-tu fait beaucoup de sacrifices aujourd'hui? » Moi, j'en ai fait beaucoup. Ma mère est sortie, et j'ai voulu souvent aller voir François, mais je ne l'ai pas fait. Cependant, sa santé s'améliore un peu. Elle peut se lever, et elle passe alors la journée assise sur le lit de François. Un jour, elle me fait appeler. Il fallait que je vienne promptement auprès d'elle, et j'arrivais en courant, et Notre-Dame, dit-elle, est venue nous voir, oui, et elle a dit qu'elle viendrait bientôt chercher François pour l'amener au ciel. À moi, elle m'a demandé si je voulais convertir encore plus de pécheurs. Je lui ai dit que oui. Elle m'a dit que j'irais à un hôpital et que j'y souffrirais beaucoup, que je devais souffrir pour la conversion des pécheurs, en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie et par amour pour Jésus. C'est dans cet élan de sacrifice dont parle Madeleine Delbrel. Je lui ai demandé si tu irais avec moi. Elle m'a dit que non. C'est ce qui me coûte le plus. Elle m'a dit que ma mère m'y conduirait, mais qu'ensuite, je resterais toute seule. Alors elle est demeurée pensive quelque temps, puis elle a ajouté, « Si tu venais au moins avec moi au ciel, ce qui me coûte le plus, c'est d'y aller sans toi. Peut-être si tu viendras à l'hôpital, et que l'hôpital est une maison très obscure où on ne voit rien, et je serai là à souffrir toute seule, mais qu'importe. Je souffrirai par amour de notre Seigneur pour faire réparation au cœur immaculé de Marie, pour la conversion des pécheurs et pour le Saint-Père. » Et quand arriva pour son frère le moment de partir au ciel, elle lui fit ses recommandations. « Dis bien des choses de ma part à notre Seigneur et à Notre-Dame, et dis-leur que je souffrirai tout ce qu'ils voudront pour convertir les pécheurs et faire réparation au cœur immaculé de Marie. Hein. » Il y a une part un peu de la spiritualité où il faut souffrir pour faire plaisir à Jésus et Notre-Dame, mais c'est qu'il y a tant d'amour au creux de cette offrande que c'est tout à fait compréhensible. Et finalement, c'est de toute beauté. Alors, je poursuis ces récits de sœur Lucie de Fatima, n'est-ce pas, qui a raconté tout à l'heure la mort de François Marteau, qui sera béatifié en l'an 2000, m'a-t-on assuré. Et à ce moment-ci, c'est sa sœur, Jacinthe Marteau, qui se meurt. Jacinthe souffre beaucoup de la mort de son frère. Elle demeure longtemps pensive. Et si on lui demande à quoi elle pense, elle répond « À François. Ah, François, qui me donnera de le revoir? » Et ses yeux se remplissent de larmes. Un jour, je lui dis « À toi, il t'en faut peu pour aller au ciel, mais moi, ma pauvre Lucie, ne pleure pas. Là-haut, je prierai beaucoup, beaucoup pour toi, car Notre-Dame, qui le veut pour toi, si elle le voulait aussi pour moi, je serais heureuse de souffrir davantage pour les pécheurs. » Enfin arrive le jour où elle doit partir à l'hôpital. En vérité, elle a beaucoup souffert. Et quand sa mère est venue lui rendre visite, elle lui a demandé si elle désirait quelque chose. Et elle lui dit qu'elle désirait me voir. Alors ma tante, en s'imposant de grands sacrifices, m'a amené avec elle, dès qu'elle a pu le faire. Et quand Jacinthe m'a aperçu, elle m'a serré dans ses bras avec joie. Elle a demandé à sa mère de me laisser auprès d'elle, tandis qu'elle irait faire ses achats. Et je lui ai demandé alors si elle souffrait beaucoup, puis elle a dit « Oh oui, je souffre. Mais j'offre tout pour les pécheurs, pour faire réparation au cœur immaculé de Marie. » Un jour, c'est une enfant qui parle, hein? Un jour, ma tante me dit « Demande à Jacinthe. À quoi elle pense quand elle est si longtemps la tête dans ses mains sans bouger? » Je le lui ai demandé, mais elle sourit et ne répond pas. Alors je le lui ai demandé. « Je pense, répondit Jacinthe, à notre Seigneur et notre Dame, aux pécheurs. » Puis là, elle a fait allusion à certaines choses du secret de Fatima. « J'aime beaucoup penser, a dit Jacinthe. » Ma tante m'a demandé quelle avait été la réponse de sa fille. Un sourire de ma part n'a pu qu'être la seule réponse. Ma tante a dit alors à ma mère, en lui racontant ce qui s'était passé, « Je n'y comprends rien. La vie de ces enfants est pour moi une énigme. » Et ma mère a ajouté, « Quand ils sont seuls, ils n'arrêtent pas de parler. Mais je ne suis pas capable d'entendre une parole, quoi que je fasse pour écouter. Dès que quelqu'un approche, ils baissent la tête et ne disent plus un mot. Je ne puis comprendre ce mystère. » La Très Sainte Vierge daigne rendre visite finalement de nouveau à Jacinthe pour lui annoncer de nouvelles croix et de nouveaux sacrifices. Elle me donne la nouvelle en me disant « Notre-Dame m'a dit que j'irai à Lisbonne dans un autre hôpital, que je ne te reverrai plus, ni toi ni mes parents, et qu'après avoir beaucoup souffert, je mourrai toute seule. Mais je n'ai pas peur qu'elle viendra me chercher pour m'amener au ciel. Quelle joie !» En pleurant, elle me prenait dans ses bras et me disait « Je ne te verrai plus. Tu n'iras pas me voir là-bas. Vois, prie beaucoup pour moi, car je vais mourir toute seule. Jusqu'au moment de partir pour Lisbonne, elle souffre furieusement, elle me prend dans ses bras et me dit en pleurant, « Je ne te verrai plus, ni toi, ni ma mère, ni mes frères, ni mon père. Je ne verrai plus personne, mais je mourrai toute seule. » Je lui dis un jour, « Ne pense pas à cela. » Alors elle me répond, « Laisse-moi y penser, parce que plus j'y pense, plus je souffre. Et je veux souffrir par amour pour notre Seigneur et pour les pécheurs. Et après tout, qu'importe, Notre-Dame viendra me chercher pour aller au ciel. » Alors quelquefois, en baisant un crucifix, elle le serre dans ses mains en disant, « Ô mon Jésus, je vous aime, et je veux souffrir beaucoup par amour pour vous. » Et elle disait souvent, « Ô Jésus, maintenant tu peux convertir beaucoup de pécheurs parce que ce sacrifice est bien grand. » Il y a dans tout ça quelque chose d'un peu naïf, mais de très sympathique. Elle demande quelquefois, « Je vais mourir sans recevoir Jésus caché, si au moins Notre-Dame l'apportait lorsqu'elle viendra me chercher. » Et je lui ai demandé une fois, « Qu'est-ce que tu vas faire au ciel? » Il m'a dit, « Je vais aimer beaucoup Jésus et le cœur immaculé de Marie, prier beaucoup pour toi, pour les pécheurs, pour le Saint-Père, pour mes parents et pour mes frères et sœurs, et pour toutes les personnes qui m'ont demandé de prier pour elle. » Lorsque sa mère se montrait triste en la voyant si malade, elle disait, « Ne vous affligez pas, maman, mais non, je vais au ciel. Là, je prierai beaucoup pour vous. » Et d'autres fois, elle disait, « Ne pleurez pas, je vais bien. » Lorsqu'on lui demandait si elle avait besoin de quelque chose, elle répondait, « Merci beaucoup, je n'ai besoin de rien. » Et quand la personne s'était retirée, elle me disait, « J'ai très soif, mais je ne veux pas voir, j'offre cela à Jésus pour les pécheurs. » Un jour que ma tante me posait quelques questions, elle m'appela et me dit, « Je veux que tu ne dises à personne que je souffre, pas même à maman, parce que je ne veux pas qu'elle s'afflige. » Un jour, je l'ai trouvée serrant dans ses mains une image de Notre-Dame et disant, « Oh, ma petite maman du ciel, alors je vais mourir toute seule. » La pauvre enfant paraissait effrayée à l'idée de mourir toute seule. Pour l'encourager, je lui ai dit, « Que t'importe de mourir toute seule, puisque Notre-Dame viendra te chercher. » Et c'est vrai, cela n'a aucune importance, au fond, tu as raison. Mais je ne sais pas comment cela se fait. Quelquefois, je ne me rappelle plus qu'elle viendra me chercher. Je me rappelle seulement que je mourrai sans que tu sois près de moi. Et arriva enfin le jour où elle devait partir pour Lisbonne. Les adieux ont été déchirants. Elle est demeurée longtemps les bras autour de mon cou et elle me disait en pleurant, « Jamais plus nous ne nous reverrons. Prie beaucoup pour moi, jusqu'à ce que j'aille au ciel. Là, je prierai beaucoup pour toi. Et ne dis le secret à personne, même si on voulait te tuer. Aime beaucoup Jésus et le cœur immaculé de Marie. Je fais beaucoup et fais beaucoup de sacrifices pour les pécheurs. » Alors de Lisbonne, elle me fit dire que Notre-Dame était venue la voir. Elle lui avait dit l'heure et le jour où elle mourrait. Elle est morte le 20 février 1920, à 10h30 du soir. Elle était entrée à l'hôpital le 2 du même mois. Elle a été opérée le 10. Avant d'être admise à l'hôpital, elle a passé quelques jours à l'orphelinat Notre-Dame des Miracles, situé près de la basilique de l'Estrella. Il était dirigé par Maria de Purificajo de Godinho. Et cette femme a noté quelques-uns de ses entretiens avec Jacinthe, qui l'appelait marraine. Et c'est là que elle recommandait d'être très bonne. Je viens de raconter à votre Excellence ce que je me rappelle de la vie de Jacinthe. Je demande au bon Dieu qu'il daigne accepter cet acte d'obéissance pour allumer dans les âmes la flamme de l'amour envers les cœurs de Jésus et de Marie.